Ben, c'est plutôt une bonne idée.
Après, ça dépend. Enfin,
ça dépend au niveau humain où est-ce qu'il veut mettre les personnes.
C'est génial. L'histoire.
Faire attention que ça ne mise pas.
Les élections municipales approchent et Radio Campus Angers va vivre au rythme de la campagne.
Je vous relance la question.
Du 24 au 28 février et du 10 au 14 mars, chaque candidat à la mairie sera l'invité du sous-marin de 19h à 20h.
C'est bien beau de dire qu'on embauche les jeunes.
Valentin et Pierre-Antoine sont allés demander aux étudiants ce qu'ils pensaient de cette proposition.
Ça va être difficile à appliquer.
Épluchage de programme, micro-trottoir, réponse aux questions des auditeurs. Nous passons en mode électoral.
Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu consacrée aux élections municipales, une heure qu'on espère pas trop perturbée par des problèmes techniques. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudi et vendredis de 19h à 20h, si le cœur vous en dit. Enfilez donc un scaphandrier. Je suis Tiffaine et à mes côtés en ce mardi, Nanette. Salut Nanette.
Salut Tiffaine.
Quentin pour sa chronique géopolitique.
Bonjour.
Bonjour Quentin, Pierre-Antoine, salut Pierre-Antoine.
Salut.
Dimitri, notre stagiaire pour l'agenda de la fin de l'émission.
Salut.
Et puis Valentin, qui est avec nous aussi.
Bonsoir Tiffaine.
Tu nous as accompagné cet après-midi pour l'interview de Christophe Béchu. Comme chaque jour, en fin d'émission, vous retrouverez la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Et on commence ce sous-marin avec le torpillage en règle de Nanette.
Il y a un homme sur Terre, ça fait un an qu'il est au chômage et il semble être le seul à ne pas le savoir, mais le pire c'est que personne n'ose lui dire. Il s'appelle Jean-Marc, il a 64 ans et est Premier ministre. On est sur le chemin du doute, du suspense. Jean-Marc c'est un peu comme le dernier Twix d'un distributeur. Tombera, tombera pas et surtout quand ? Bon, la comparaison est pas top, excuse Jean-Marc si tu ne m'inspires pas plus que cette image de barre chocolatée. Enfin, tu remarqueras que j'aurais pu te sortir le paquet de Madeleine et je doute qu'il soit préférable de ressembler à de la banane mollet jaunâtre. Une chose est sûre, c'est un Twix cerné, fatigué, qui se balade dans le distributeur de l'Elysée. Parce que Jean-Marc, quand il est dans le caca, il l'est jusqu'au bout et dans tous les domaines. Opinion publique, sondage, cote de popularité, confiance avec François, relation avec ses ministres. Un type qu'à la poisse, on en connaît tous un, mais là tout de même, c'est un poisseux de compète. Quoi qu'il en soit, il s'agit pour l'Elysée de s'en débarrasser. Il n'y en a pas un qui n'y croit toujours pas. Notre Premier ministre est tellement à l'ouest qu'il est persuadé que, je cite, « Je suis le chef d'une équipe soudée, je m'entends bien avec tous les ministres. » C'est ça, et moi je suis la reine Queen Elizabeth II et je vais dominer le monde avec mes coniches. Comme quoi, tous les fantasmes sont dans la nature. Jean-Marc rajoute même « Je ne me pose pas la question de mon avenir. » Eh bien, tant qu'à faire, ça vaut mieux. C'est François Hollande qui récupère le pompon, difficile à digérer pour lui, il doit en perdre ses cacahuètes. Hollande, il souhaite simplifier le gouvernement, le resserrer. Enfin, pour l'instant, il devrait plutôt resserrer le calcif. Eva Joly remet en question le cap politique et non le casting. Oui, enfin, même si l'intrigue du film est splendide, si les acteurs sont nuls, le film aussi. On verrait mal Elise Moon remplacer DiCaprio dans Titanic. Plus violent, Jérôme Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, lynche littéralement Jean-Marc. Je pense qu'Héro est objectivement très fatigué, très usé. Eh bien voilà, c'est pour ça, faut pas chercher plus loin. Solution, on rallonge chez nuit ou comment ça se passe? Mais un homme semble s'ériger en super-héros, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Ce qui semble embêter Gilles Carrez, un député UMP. Je cite, « Je m'interroge parce que je crois qu'il est assez dépensier. » Précision, Gilles, il se trouve que la fenêtre de mon bureau donne sur l'hôtel de Lacet et j'observe qu'il y a des réceptions pratiquement tous les jours. On comprend déjà mieux pourquoi Bartolone est sympathique et a beaucoup d'amis. Je précise tout de même, l'hôtel de Lacet, c'est pas la salle de fête du coin, c'est bien la maison de Claude. En tout cas, gros doute, soit Gilles cultive des potagers de millions d'euros, soit ces fêtes sont en réalité des dînettes organisées avec bouffe en plastique et comme invité poupée Corolle. C'est peut-être chercher la petite bête, mais je doute que la France puisse suivre ce budget dînette tout en gérant ses quelques milliards d'euros de dettes. Après, c'est un détail. Heureusement, notre ami Gilles Carrez est là et il nous a trouvé la solution. Si Claude devient Premier ministre, il faudra mettre en face de lui un ministre des Finances qui verrouille les comptes. Sympa, la vie de Premier ministre.
Merci, Nanette. Pendant toute cette semaine et également du 10 au 14 mars prochain, le sous-marin va recevoir les 9 candidats à l'élection municipale, dont le premier tour aura lieu le 23 mars. Pour des questions pratiques, nous n'avons pas pu réaliser toutes les interviews en direct et nous avons donc fait le choix de toutes les enregistrer, et ce, pour des questions d'équité. Notre second candidat invité de cette semaine est Christophe Béchu. Nous l'avons interviewé cet après-midi avec Valentin et Pierre-Antoine. Il est celui qui a raté le siège de maire d'Angers à 667 voix en 2008. Il se représente bien sûr cette année avec une liste différente puisque son coéquipier d'alors fait aujourd'hui cavalier seul. Avec sa liste Angers pour vous, il est celui qui pourrait faire basculer Angers à droite après 37 ans de politique de gauche. Bonjour Christophe Béchu.
Bonjour.
Vous avez été conseiller municipal de la ville d'Avry à 21 ans, conseiller municipal de la ville d'Angers, vous avez été eurodéputé, vous êtes président du conseil général de Maine-et-Loire, sénateur, vous avez tenté d'être président du conseil régional, mais ça vous l'avez raté par contre. Après tout ça, ça vous importe vraiment la mairie d'Angers ou est-ce que ce serait juste une victoire supplémentaire ?
Non, pour moi c'est vraiment pas une élection comme les autres. Angers c'est ma ville, celle dans laquelle je suis né, celle dans laquelle j'ai toujours vécu, à part une toute petite période d'infidélité pour aller faire quelques années d'études à Paris. Et j'ai pour cette ville un attachement et une passion qui sont particuliers. Et au-delà de ça, si je suis candidat, c'est parce que j'ai vraiment le sentiment que notre ville peut faire mieux que ce qu'elle fait. On a une ville qui est belle, qui regorge de talents, dans laquelle il y a plein de choses qui vont bien. Mais à côté de ça, depuis 10 ans, on perd des habitants, on en a perdu 4000. Pour la première fois dans l'histoire de notre ville, le taux de chômage à Angers est supérieur au taux de chômage national. Et mon objectif, c'est pas de faire basculer Angers d'un côté ou de l'autre. C'est, après 37 ans, quelle que soit la couleur politique de ceux qui ont été en place, considérer que quand, pendant trop longtemps, on reste sans alternance, il y a un moment où on finit par avoir du mal à se renouveler, où les idées s'étiolent, où les majorités se rétrécissent. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, faire entrer un souffle nouveau à l'hôtel de ville et faire en sorte qu'on puisse s'autoriser à nouveau à regarder vers l'avant et apporter une nouvelle dynamique.
La loi votée en janvier prévoit qu'un parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, ne pourra pas cumuler les fonctions de maire à partir de 2017. Est-ce que si vous êtes élu en mars, Christophe Béchu, vous attendrez 2017 pour démissionner de votre poste de sénateur ?
Exactement. C'est l'engagement que j'ai pris devant les Angevins le jour où j'ai annoncé ma candidature au mois de septembre. Celui de démissionner, bien entendu, de façon immédiate de la présidence du département et celui de ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat de sénateur à la fin de son terme en 2017. Et au-delà de ça, d'être maire d'Angers à temps plein, c'est-à-dire sans être candidat pour des élections régionales, départementales ou d'autres qui, elles, ne sont pas interdites par la loi sur le cumul des mandats. En revanche, je me l'appliquerai de manière stricte en faisant de manière totale et complète, ce job de maire pour lequel je suis aujourd'hui candidat.
Donc vous attendrez 2017, vous serez sénateur jusqu'en 2017 ?
Exactement, et avec la conviction de surcroît que beaucoup de villes qui nous entourent, elles ont plutôt tiré profit d'avoir des maires qui pouvaient avoir des relations à Paris, qui étaient en capacité aussi d'aller chercher des entreprises, d'être en capacité d'avoir un carnet d'adresses et un réseau. Quand on regarde ce qu'a été le développement de Nantes, et Dieu sait que Jean-Marc Ayrault, avant d'être Premier ministre, n'était pas que maire de Nantes, il était aussi président du groupe socialiste, député. Quand on regarde la manière dont Rennes s'est développée, avec un député maire à sa tête, je pourrais multiplier les exemples de ce type, Strasbourg, Bordeaux. On s'aperçoit que il y a une loi. Elle va s'appliquer, je me l'appliquerai à moi-même en faisant le choix du local, mais pour autant, dans l'attente, ça peut aussi être un moyen de contribuer au rayonnement de la ville et d'aller chercher à l'extérieur les contacts ou les réseaux qui nous manquent parfois pour attirer des entreprises sur notre territoire.
Est-ce que, comme il est raconté dans le livre d'Alain Machefer, la machine à perdre, vous voulez toujours être chef de l'État à 50 ans ?
Non, mais alors, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait exactes dans le livre d'Alain Machefer, l'essentiel. En revanche, je ne sais pas d'où vient cette citation, ça ne fait pas partie aujourd'hui de mes ambitions.
On va passer à vos propositions, Christophe Béchu, en ciblant évidemment celles qui concernent les jeunes et également le domaine de la culture. Christophe Béchu, j'ai fait un contrôle F dans votre programme, j'ai donc recherché le mot « jeune » ou « jeunesse ». Et ce mot n'apparaît que 7 fois, dont 2 fois seulement dans les propositions. Avec 37% de la population âgée de moins de 25 ans, vous ne trouvez pas que ça fait peu ?
Je crois que le mot « vieux » n'apparaît pas une seule fois. Pour être tout à fait honnête, si vous vous amusez à faire un contrôle F, donc il faut aussi se méfier quand on utilise ce genre de raccourci, de voir que au-delà des mots, il y a aussi l'ambition qu'on est capable de porter. Moi, je dis très clairement que la jeunesse d'Angers, c'est bien entendu une de ses richesses. 33 000 étudiants, avec l'Université catholique de l'Ouest, avec l'Université d'État, avec toutes ces écoles, c'est un potentiel fantastique pour notre territoire. Et c'est un potentiel qu'on n'utilise pas suffisamment. On ne l'utilise pas d'abord pour justement assurer le rayonnement de la ville dont je parlais. Angers, quand on interroge des gens qui ne connaissent pas la ville, dans beaucoup de cas, ils ont du mal à la situer sur la carte de France. Et dans beaucoup de cas, ils n'imaginent pas qu'il y a 150 000 habitants à l'intérieur de la ville et près de 300 000 à l'échelle de l'agglo. Je veux qu'on utilise tous ces étudiants qui, à un moment ou à un autre, sont passés par Angers pour devenir des ambassadeurs de notre territoire. Je propose, par exemple, de fédérer un réseau, des réseaux d'anciens élèves. Là, c'est le mot « élève » qu'on a utilisé, pas le mot « jeune », par exemple, dans le programme. En m'appuyant sur une idée simple, c'est que chaque année, il y a entre 5 et 6 000 nouveaux étudiants qui arrivent, et puis il y en a entre 5 et 6 000 qui quittent la ville pour poursuivre leur vie ailleurs. Si On envoyait chaque année, ne serait-ce qu'un courriel, une newsletter, pour donner des nouvelles de la ville dans laquelle ils ont fait leurs études. Ce serait un fantastique moyen de pouvoir aussi fédérer toutes ces forces vives et leur donner envie de revenir, le temps d'un week-end pour faire du tourisme, et peut-être, pourquoi pas, pour implanter une activité dans 10 ou dans 15 ans. Je pense que cette jeunesse, il faut qu'on l'utilise. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, dans trop de lieux, dans trop d'endroits, les étudiants, finalement, ils se mélangent pas forcément au reste de la population angevine, et qu'on peut progresser pour faire en sorte qu'il y ait davantage de mixité, de diversité, de rencontres, de passerelles entre tous les angevins sur notre territoire. Et je suis convaincu que là aussi, on a des marges d'amélioration, notamment d'un point de vue culturel.
Valentin.
Christophe Béchu, après avoir épluché votre programme, on s'interroge sur l'absence de propositions pour l'emploi des jeunes. Vous n'avez pas peur de voir partir les étudiants angevins après leur cursus universitaire?
Malgré les newsletters.
Alors, je vous invite à vous reporter aux pages 4 et 5 de mon programme. Qui traite précisément, comme je vois que vous l'avez sur la table, je le fais en direct, qui traite notamment du développement économique, qui est évidemment ma priorité. Et pour dire les choses de manière simple, on a un nombre de jeunes entre 18 et 25 ans qui est parmi les plus élevés de France quand on le rapporte à la population, mais on a un nombre de jeunes entre 25 et 35 ans qui non seulement montrent que les jeunes qui viennent faire leurs études de l'extérieur s'en vont, mais que même une grande partie des angevins, comme ils n'arrivent pas à trouver du travail sur place, s'en vont aussi. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment mettre le paquet sur le développement économique et l'emploi. Et quand je propose de faire d'Angers une ville qui soit championne de la création d'entreprises, c'est très clairement quelque chose qui s'adresse à ceux qui peuvent créer des entreprises, notamment à ces étudiants, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de l'artisanat, ou dans le domaine des services, du conseil, ou des choses de ce type. Quand on voit qu'à Toulouse et Montpellier, des jeunes qui créent leurs entreprises vont être accompagnés par des bourses entreprendre, qui est une des premières propositions que je fais et qui est clairement à destination de la jeunesse, de manière à pouvoir s'entourer des conseils d'avocats, d'experts comptables, de graphistes, pour augmenter la probabilité de survie et de développement de leur entreprise, c'est une proposition pour faire en sorte que les jeunes demain puissent contribuer au développement économique du territoire. Quand je propose qu'il y ait des loyers plus faibles en nous appuyant sur les friches industrielles, économiques ou commerciales qui existent sur notre territoire, pour qu'on puisse implanter des espaces de coworking, pour que là aussi, plusieurs porteurs de projets, au lieu de chercher un emplacement à eux, puissent partager des bâtiments ou des locaux à l'intérieur desquels ils auront moins de charges et à l'intérieur desquels éventuellement ils découvriront même des opportunités de développer des projets en commun pour faire rayonner notre territoire et pour le développer. On est clairement là-dedans, dans les propositions qui sont adressées à la jeunesse. Ensuite, pour moi, quand je vois que depuis 10 ans, on n'a pas accueilli une entreprise significative sur Angers, que toutes les nouvelles économiques au cours de ces 10 dernières années, ce sont des nouvelles qui relèvent de fermetures de sites, avec les drames humains qui les accompagnent, je considère qu'il y a une responsabilité du maire. Autant il y a un contexte économique, national, européen, mondial, contre lequel on peut rien, autant il y a des villes qui font bien mieux que nous. Cholet tout près, Nantes, j'ai cité Toulouse, Montpellier, je pourrais citer Bordeaux. Même Le Mans, qui il y a quelques années était en difficulté, est aujourd'hui dans une dynamique économique qui est plus favorable que la nôtre. Je propose qu'on copie ce qu'ils sont capables de faire, en faisant à la fois davantage confiance aux chefs d'entreprise et en leur confiant des places dans la gouvernance économique du territoire, mais aussi en rationalisant nos outils. À Angers, on a une agence de développement économique, un service économique à l'agglo, des gens qui travaillent aux mines, à la technopole, et tous ces gens-là, au lieu d'être mis en commun au service du territoire, ils travaillent dans leur coin et parfois les uns contre les autres.
Parmi les propositions que vous faites aux jeunes, Christophe Béchu, il y en a une qui est très pragmatique. L'instauration d'un principe droit et devoir avec une heure de permis de conduire payé égale une heure d'action citoyenne. Pierre-Antoine et Valentin sont allés demander aux étudiants ce qu'ils en pensaient.
Ça me semble être une bonne idée maintenant. Est-ce que les jeunes auront la possibilité vraiment d'accorder une heure de leur temps pour travailler?
C'est une bonne idée. Ça permet d'avoir, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer le permis, de se le payer à moindre coût.
Enfin, je comprends pas trop le principe de faire ce genre de proposition-là. Moi je trouve que c'est, y a pas grand intérêt pour la personne qui va avoir l'heure de permis gratuite de faire ce genre de choses-là.
Ouais, ça dépend quel type de travail, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas toujours les moyens de payer son permis.
Alors Christophe Béchu, vous proposez d'instaurer le principe d'une heure de permis de conduire payé est égal à une heure d'action citoyenne. Qu'entendez-vous par action citoyenne?
Écoutez, c'est assez simple. On a aujourd'hui des quantités d'associations, de maisons de retraite, de foyers logement à l'intérieur desquels on serait demain en capacité d'apporter à la fois plus d'humanité, plus de rencontres, plus de services. Et j'ai le sentiment que c'est à la fois un bon moyen de faire de l'intergénérationnel et que chacun s'y retrouve dans une logique qui soit gagnant-gagnant. D'un côté, ça dit que les choses ne sont pas totalement gratuites et qu'en contrepartie d'un effort que la collectivité va faire, chacun donne du sien. Ça permet aussi d'avoir la fierté de se dire que c'est à son propre travail qu'on doit l'aide qu'on a pu recevoir. Et puis, c'est un moyen de faire progresser la citoyenneté sur notre territoire. Et moi, c'est une idée qui me tient particulièrement à cœur. On vit dans des villes qui sont parfois très grandes. On croise des gens, mais on ne partage pas forcément des moments avec eux. Et il y a un fléau dans les villes, c'est celui de la solitude. Beaucoup de gens, c'est pas le cas quand on est jeune, mais beaucoup de gens se retrouvent dans une situation où ils peuvent passer plusieurs jours sans forcément parler à quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait reculer cette solitude? C'est pas avec des lois, en obligeant les gens à faire des choses, qu'on y arrivera. Il faut donc essayer de multiplier les occasions de rencontres, de partage, d'échanges. Il y a cette idée, qui elle repose sur la base du volontariat, parce que ça suppose d'être en attente de quelque chose ou d'un dispositif. Puis il y en a une deuxième, à laquelle je tiens énormément et sur laquelle je compte évidemment m'appuyer beaucoup sur les associations étudiantes, qui est la journée citoyenne. Il y a une toute petite commune de l'Alsace, qui s'appelle Berwiller, dans laquelle la moitié de la population, c'est-à-dire 350 personnes, donne une journée par an, en venant s'inscrire à la mairie en disant « tel jour, un jour fixe, moi je suis disponible ». Ça peut être pour aller ramasser des ordures dans la forêt du coin, ça peut être pour aller repeindre un local à tel ou tel endroit. Mon rêve, c'est qu'Angers, on soit la première grande ville à mettre en place une action citoyenne de ce type et que 10 000 Angevins viennent s'inscrire à la mairie ou dans les mairies de quartier pour proposer du temps et qu'on mette en face des demandes associatives ou publiques et que ce jour-là, quelle que soit la condition des gens, leur catégorie socio-professionnelle, leur couleur de peau, leur religion, leur parti politique, on est un fantastique élan de solidarité qui soit contagieux et qui montre que, alors qu'on est dans une phase où il y a la tentation du repli sur soi, la tentation du rejet de l'autre, parce qu'on sent bien que les temps sont compliqués, et ben au contraire, on montre qu'une ville, c'est d'abord un endroit dans lequel on se retrouve tous ensemble et on tire tous dans la même direction.
Et parmi les quatre propositions de votre chapitre sur la jeunesse, vous proposez de réfléchir à la possibilité de regrouper les activités nocturnes dans un lieu desservi par le tramway. Est-ce que vous trouvez que l'on fait trop de bruit?
Alors, écoutez, je pense que vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a un certain nombre de familles qui trouvent qu'il y a effectivement parfois une exubérance et un enthousiasme qui peut poser quelques difficultés pour s'endormir tranquillement. Moi, j'ai une thèse qui est très simple. Les 33 000 étudiants à Angers, c'est une chance absolue. On ne peut pas s'en passer. Si demain, on n'a plus ces 33 000 étudiants, les difficultés économiques, la volonté de remonter le commerce, de développer notre territoire, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué. Et pour que ces 33 000 étudiants restent, il faut non seulement qu'ils aient des conditions d'études qui soient bonnes, mais des conditions pour faire la fête qui le soient aussi, parce que ça participe au plaisir et à la qualité qu'on prend dans la ville dans laquelle on se trouve. Et y compris à la réputation à l'extérieur, et donc éventuellement à l'envie de venir dans telle ou telle école ou dans telle ou telle université. Et en même temps, il ne faut pas que les familles quittent la ville et qu'on se retrouve avec une perte de population qui serait liée au fait que cette cohabitation soit compliquée. Et mon interrogation aujourd'hui, elle est de me dire que peut-être avec un certain nombre des professionnels de la nuit, avec les organisations étudiantes, on peut peut-être réfléchir à un site qui soit en centre-ville, qui soit central et sur lequel des établissements qui ferment au-delà de 2h du matin pourraient se retrouver à proximité les uns des autres dans une sorte de zone de loisirs qui ouvrirait tard le soir et qui permettrait, en n'ayant pas de riverains à proximité, de pouvoir conjuguer ces deux sujets.
Un parc ?
Pas un parc, c'est absolument pas le thème, ou alors un parc au sens parc à thème et parc de loisirs, parce que l'idée c'est pas que ce soit un lieu qui soit un lieu fermé, c'est bien l'idée qu'il soit un lieu ouvert, en bord de Maine, avec peut-être par exemple la péniche boîte de nuit qui pourrait remonter pour être dans l'ensemble de secteurs, à proximité du multiplex. On a un certain nombre d'idées, c'est une idée compliquée, d'abord parce qu'il faut éviter que ce soit perçu comme une volonté de parquer qui que ce soit, c'est absolument pas l'objectif, c'est au contraire offrir une nouvelle expérience de fête et un lieu dans lequel on peut d'autant plus se laisser aller que il n'y a pas de riverains et qu'on peut se permettre de faire du bruit sans trop s'inquiéter par rapport à ce type de choses. Avoir aussi sur site un espace en termes de prévention ou d'accompagnement s'il y a des conduites à risque qui puissent se tenir. Et une desserte par les transports en commun pour éviter qu'il y ait des comportements de reprise de voiture après des soirées où il peut arriver qu'on ne boive pas que de l'eau.
On passe au chapitre sécurité avec cette proposition installée de la vidéoprotection.
Si c'est dans la ville, je pense que ça pourrait être une bonne idée, surtout au niveau des quartiers un peu plus chauds, comme on dit. Surtout le soir, ça nous serait utile quand on rentre de soirée.
Je pense que ça peut être une bonne idée, mais faire attention que ça ne nuise pas à la vie personnelle des gens. Mais ça peut être un bon moyen de sécuriser la ville et que les gens s'y sentent plus en sécurité.
Les plus grandes villes, je pense par exemple à Londres, les plus grandes villes européennes ont des systèmes de surveillance dans les rues, donc ça peut être une bonne idée.
Je pense que ça fait trop... Après, c'est mon côté littéraire qui va parler, 1984 de George Orwell, donc on peut être très surveillé, donc c'est pas trop mon délire.
Christophe Béchu, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette jeune fille qui cite George Orwell ?
que moi aussi qui ai une formation littéraire, c'est pas mon délire. Ce que je dis, c'est que je suis pas dans un délire, je veux juste pas qu'on soit dans le déni. On a aujourd'hui à la fois un sentiment d'insécurité qui peut monter dans certains secteurs, et puis des témoignages. Vous savez, on est en train de faire le tour de cette ville en porte-à-porte, d'aller à la rencontre des gens, et il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont le sentiment qu'il pourrait y avoir plus de sécurité. Pour bien vous dire ce à quoi je pense, je suis extrêmement soucieux de la question du respect des libertés. Et donc, l'idée, c'est pas de mettre des caméras avec des gens derrière, qui sont en train de regarder les images. On enregistre, et seulement si un crime ou un délit ou quelque chose de grave a lieu, le lendemain, il y a le visionnage des images sur la tranche horaire où le dépôt de plainte a eu lieu. Pour dire les choses simples, il y a deux grands types d'organisation de vidéosurveillance. Celle à la niçoise, où vous avez des caméras et où pour moi c'est effectivement Big Brother, et ça je n'en veux à aucun prix, avec des gens qui sont avec des talkie-walkie et qui vont dire « Dépêchez-vous d'aller à tel endroit devant la caméra 118 parce qu'il va bientôt se passer quelque chose. » Et celle au contraire, où vous l'utilisez après pour aider une enquête, pour renforcer un sentiment de sécurité, mais où il n'y a pas de caractère attentatoire à la vie privée, parce que par définition, on ne conserve pas les images et on ne les visionne que s'il y a eu un dépôt de plainte avec un horaire qui a été indiqué.
Mais Angers est 40e, arrive en 40e position des villes entre 100 000 et 250 000 habitants en termes de criminalité. C'est quand même pas la priorité à Angers.
Ah mais si vous avez lu avec attention mon programme, vous verrez que je n'en doute absolument pas, chère Tiffaine. Mais simplement à l'intérieur, je crois dire effectivement que Angers n'est pas Chicago, qu'il n'y a pas de lieu de partir dans un délire. Mais quand je vois que dans une ville comme Trélazé, que beaucoup d'auditeurs connaissent, qui est 10 fois plus petite qu'Angers, il y a plus de caméras de vidéoprotection qu'à Angers, je me dis qu'entre les deux, on peut peut-être arriver à trouver, sans verser dans le délire, le moyen de faire en sorte d'offrir aux Angevins un service qui correspond pour beaucoup d'entre eux à un des éléments qui concourt à faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité dans beaucoup de villes. C'est aussi grâce à ce type de caméra qu'on a été capable de retrouver des agresseurs et de faire en sorte d'arrêter que certains commettent des actes à répétition.
Christophe Béchu, je vous propose de marquer une pause musicale avec un artiste angevin. Je vous laisse écouter et nous dire ensuite si vous avez trouvé de qui il s'agissait. Est-ce que vous avez reconnu Christophe Béchu de qui il s'agissait ?
Once Upon a Time.
C'est le titre, effectivement. San Carol.
San Carol.
Du label Ego Twister.
Très bien.
Vous connaissiez ?
Sincèrement, je ne crois pas.
Bon. On va reprendre le fil de notre discussion, justement, autour du thème de la culture. Peut-être que l'on peut s'arrêter d'abord sur votre éventuel adjoint à la culture si vous êtes élu. Alain Fouquet, 64 ans, avocat. Est-ce que c'est le meilleur profil pour s'occuper de la culture ?
Alors, je crois sincèrement. C'est quelqu'un qui a à la fois beaucoup de sensibilité, qui est passionné de culture et qui, à côté de son métier, qui, effectivement, avocat, c'est pas un métier qui est nécessairement très culturel, même si il fait partie de ceux qui sont spécialisés aussi sur les questions de propriété intellectuelle. Donc, il est amené à croiser, dans un certain nombre de cas, la route de celles et de ceux qui ont ce type de problématiques. Je pense que c'est effectivement la bonne personne. D'abord, un homme de dialogue. Quelqu'un qui n'a pas de préjugés d'a priori, et moi je ne considère pas que l'adjoint à la culture, son job, ce soit d'être le directeur culturel de la ville. Il est là pour permettre à toutes les cultures de s'exprimer, pas pour promouvoir ou pour imposer sa vision ou ses goûts. Une ville, ça doit être l'addition des cultures de ses habitants et pas la culture officielle de la mairie ou de la municipalité.
L'une de vos propositions phares en termes de culture, c'est transformer la prison en centre d'art contemporain.
Pourquoi pas en faire autre chose, mais ça pourrait être une bonne idée. Ça dépend au niveau humain où est-ce qu'il veut mettre les personnes.
C'est génial. L'histoire dessus pour de l'art contemporain, je pense qu'il y en a qui vont s'éclater.
Ce serait intéressant de voir comment ils mettraient ce projet en œuvre, parce que transformer une prison et accueillir des gens pour la dédier à l'art et tout, c'est assez intéressant, mais... J'avoue que moi, j'aurais des réticences à y aller. Et en plus, je ne suis pas sûre que les personnes de Trélazé seraient très heureuses d'accueillir une prison à côté de chez eux.
Christophe Béchu, vous souhaitez transformer la maison d'arrêt en centre d'art contemporain. Je vous cite, pour que les visiteurs et les artistes sentent qu'il s'agissait d'un lieu de souffrance. Alors, ce projet n'a pas été chiffré. Comment vous voulez le financer ?
Bon, d'abord, il faut dire les choses de manière très rapide. On a une maison d'arrêt à Angers qui a un siècle et demi et qui est classée. Comme elle est classée, on ne peut pas y faire de travaux. Et aujourd'hui, on accueille des détenus dans des conditions d'indignité qui sont une honte pour notre territoire. Il y a une épidémie de gale depuis près de 4 ans dans cette prison qu'on n'arrive pas à éradiquer. Il n'y a aucune intimité à l'intérieur des cellules. Et c'est une chose de considérer qu'il y a des gens qui doivent passer du temps en prison pour ce qu'ils ont fait. C'en est une autre de les traiter comme des animaux pendant la période où ils se retrouvent dans cette situation. Tous les élus sont d'accord aujourd'hui pour que cette prison aille s'installer à Trélazé, puisque la ville est candidate et que tout le monde considère qu'il y a un site qui correspond. À partir de ce moment-là, puisque le bâtiment est classé, il ne pourra pas être détruit. Et la ville, quelle que soit la couleur politique de ceux qui seront en place, elle le récupérera. La responsabilité d'un candidat au municipal, si vraiment il veut conduire avec humanité, avec fermeté, avec détermination le déménagement de cette maison d'arrêt, c'est de dire ce qu'il fera de ce site. Ce projet, ça consiste à abattre les murs extérieurs, à garder que le bâtiment principal, qui est composé de 3 grandes ailes, qui se prêtent idéalement en termes de coursives à des lieux d'exposition, et de transformer les cellules pour que ces cellules deviennent des lieux à l'intérieur desquels on puisse faire des résidences d'artistes, en matière de culture urbaine, dans l'une des ailes, en termes de culture picturale dans l'autre, avec à la fois des gens qui feront des tableaux, qui feront de la tapisserie contemporaine ou qui feront de la sculpture, et une troisième dans laquelle on pourra faire de la résidence d'artistes. Ça représente un investissement qui est très raisonnable pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas modifier les volumes des lieux. Les travaux que vous pouvez faire à l'intérieur ne sont qu'à minima puisque le site est classé. Donc vous ne pouvez pas abattre les murs intérieurs ou modifier les volumes puisque ce ne serait pas légal. Et ensuite, le principe, c'est de reposer sur un contraste entre l'univers carcéral, lieu de souffrance, lieu de privation de liberté et un lieu d'expression de liberté, de création jadissante, d'émotion pour celles et ceux qui verront ce contraste et qui découvriront que dans un lieu dans lequel on a souffert pendant longtemps, aujourd'hui on est capable d'exulter.
Christophe Béchu, dans le budget municipal 2013, le poste vie associative, c'est le second en termes de dépenses, avec 8,5 millions d'euros d'investissement. Dans votre programme, vous évoquez les assises du monde associatif, mais est-ce que vous allez poursuivre en termes de budget cette ligne menée par la municipalité actuelle ?
Oui, je considère que le soutien aux associations, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi je veux faire des assises du monde associatif ? Parce que, à côté des 8,5 millions dont vous avez parlé, qui concernent l'investissement, c'est 39 millions d'euros de fonctionnement. De soutien aux associations pour leur permettre de fonctionner. Et avec des écarts, aujourd'hui, qui sont difficiles à comprendre pour des gens qui sont extérieurs à la municipalité. Vous avez des associations avec très peu d'adhérents qui ont des sommes et des budgets de fonctionnement, voire même du soutien au recrutement, et vous en avez d'autres avec énormément d'adhérents qui n'ont pas ou que très peu de financement et de soutien. Je veux qu'on mette en place des critères qui soient objectifs et qui permettent à chacun d'avoir davantage de transparence sur la manière dont sont utilisées ces sommes. Et mon objectif, c'est pas tant de diminuer ces crédits que de faire en sorte de mieux les répartir pour qu'il ne puisse pas y avoir le moindre soupçon de clientélisme, de soutien à des communautarismes divers et variés à l'échelle du territoire.
De quels critères vous parlez alors ?
Par exemple sur le nombre d'adhérents, sur le caractère d'intérêt général, sur le fait de savoir s'il y a ou pas des emplois salariés, sur la nature des événements qui sont faits, sur l'ouverture de ces événements aux angevins, sur les tarifs éventuels qui sont pratiqués pour ceux qui veulent devenir adhérents. Une grille de critères, comme ça se fait dans plein de villes, et qui nous permettrait là aussi d'avoir une vision qui soit plus claire et plus transparente. Vous avez dans certains cas des associations sportives, dans des domaines qui sont proches, avec des budgets qui peuvent varier de 1 à 10, sans qu'on comprenne forcément quels sont les critères en fonction desquels les choses se font. Sur tous ces éléments-là, je veux précisément, et je pense qu'un changement, une alternance, ça peut amener cette respiration démocratique et cette transparence dont je parlais.
Pierre-Antoine ?
Dernière question, et on sort un peu du champ de la culture. Vous avez co-présenté une proposition de loi établissant une objection de conscience, en clair, pour permettre aux maires qui refusent de se marier deux personnes du même sexe de ne pas le faire. Christophe Béchu, si vous êtes élu, est-ce que vous déléguerez cette mission à un adjoint ?
Alors, j'ai été extrêmement clair, je me suis opposé au texte du mariage pour tous. La loi est la loi, on vit en République, à partir du moment où un texte a été voté, si je gagne ces élections municipales, bien évidemment, des mariages de personnes de même sexe seront célébrés à Angers. Si, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, quand vous voulez vous marier, vous pouvez éventuellement demander nominativement à un élu de faire le mariage. Si ce n'est pas le cas, c'est l'ordre des adjoints qui s'applique pour savoir qui le célébrera. Il va de soi que s'il y a des volontaires, écoutez, ces volontaires feront les mariages. S'il n'y a pas de volontaires, je ferai moi-même ces mariages. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet.
On va conclure cette interview avec un petit quiz. Christophe Béchu, combien de fois par semaine est-ce que vous prenez le tramway ?
Pas toutes les semaines, je dirais allez, une ou deux fois par mois.
Une ou deux fois par mois. Votre groupe angevin préféré, donc c'est pas San Carole, on l'aura compris.
C'est pas très original, mais ça va être Pony Pony Run Run.
La dernière sortie culturelle que vous ayez faite ?
Il y a 10 jours pour du beatbox au bar du quai.
Avec, pour la semaine du son ?
Oui.
Vous avez apprécié ce moment ?
Oui, sauf que je suis arrivé trop tard pour être près de la scène. Et du coup, c'était pas des conditions optimales pour en profiter, mais c'était tout à fait sympathique.
Votre bar favori, le lieu...
Ça, c'est une question difficile, parce qu'il y en a plusieurs, et que ça varie en fonction de mes ambiances. Mais j'aime bien aller au James Joyce, j'aime bien aller... au Café Rouge, à d'autres moments de la journée, au bar belge.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Et votre quartier préféré pour vous balader à Angers ? Votre lieu favori pour flâner ?
Mon lieu favori pour flâner, c'est le bout du monde.
Question bonus posée sur les réseaux sociaux, Christophe Béchu, et il va falloir faire court. Est-ce que vous êtes content de votre bilan au département, toujours aussi peu visible selon l'internaute qui a posé la question ?
Vous savez, le département à 70%, c'est des dépenses sociales. Et c'est le soutien aux personnes les plus fragiles. Ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas forcément la même visibilité que sur d'autres actions. Parce que quand vous accompagnez les personnes âgées, les personnes handicapées, ceux qui sont au RSA et les enfants qui sont privés de leur famille parce qu'elles auront été retirées par des décisions de justice, c'est pas la médiatisation et la visibilité que vous recherchez. C'est au contraire l'humanité et la solidarité au quotidien.
Donc vous êtes satisfait de votre bilan ?
Je suis fier du travail qui a été accompli avec ma majorité et surtout... avec les agents de la collectivité départementale, parce qu'on parle toujours des élus, mais ceux qui font la politique sur le territoire sont bien les fonctionnaires et les agents publics au quotidien.
Merci Christophe Béchu d'avoir été notre invité dans le sous-marin pour cette première semaine consacrée au municipal et bon courage pour cette campagne.
Merci à vous.
Jeudi dans le sous-marin pour cette semaine spéciale municipale, nous recevrons Laurent Géraud qui mène la liste Servir Angers. N'hésitez pas à lui poser des questions sur notre fil @campusangers et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, on marque une pause musicale avec Lens, Fragile Lens.
Okay.
matin, notre chroniqueur géopolitique ne pouvait pas passer à côté de l'Ukraine cette semaine, où les événements s'enchaînent à un rythme d'enfer. Le Parlement ukrainien souhaite que Yanukovych soit jugé par la Cour pénale internationale. Un nouveau gouvernement de transition doit être désigné jeudi. À mesure que les nouvelles se succèdent, un avenir semble se décider, Quentin.
À l'heure où l'Ukraine doit se recentrer sur elle-même pour se reconstruire, la voilà destinée à une dépendance financière inévitable. Une dépendance vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis de l'Union européenne. Nous savions la situation financière tendue. C'est pire que ça. Le président par intérim, Oleksandr Tourchinov, annonce que le pays est au bord d'un défaut de paiement.
Quels sont les intérêts des différentes puissances pour venir en aide à l'Ukraine ?
Évoquons la Russie. Celle-ci ne dépend en aucun cas de l'Ukraine où ses intérêts matériels sont négligeables. Plusieurs raisons poussent cependant la Russie à s'immiscer dans les affaires internes de son voisin. Tout d'abord, une fierté nationale réelle, encouragée par la propagande du président. Le pays des tsars se doit d'avoir un rayonnement régional sans partage. Une autre raison est que l'est de l'Ukraine est russophone et opposé aux événements en cours à Kiev. Cet est-là ne verrait probablement pas d'un mauvais œil l'intervention d'un grand frère, une intervention dépassant les enjeux financiers et qui permettrait de se débarrasser de la racaille fasciste, seule responsable du désordre, à leurs yeux.
Et l'Europe ?
L'Occident, plutôt. Il porte un intérêt certain et nouveau pour l'Ukraine. Les visites diplomatiques s'enchaînent dans le pays. Actuellement, ce sont les États-Unis qui tendent la main aux Ukrainiens. Le secrétaire d'État adjoint, William Burns, est sur place pour discuter d'aides financières conjointes avec le FMI. L'Union européenne a envoyé des signaux similaires. L'enjeu majeur est l'avancée de la démocratie dans le pays. Les desseins des Occidentaux révèlent eux aussi un certain ego. Une volonté d'afficher une influence géopolitique et d'avoir le dernier mot. De leur côté, les Russes ne se laisseront pas faire et peuvent parfaitement se montrer prêts à favoriser une scission du pays. Par exemple, en équipant et en formant des milices indépendantistes. Poutine pourrait aussi décider d'attendre l'affaiblissement des forces politiques qui ont chassé Yanukovych.
Et quel camp semble le plus à même de l'emporter ?
Le camp qui l'emportera sera celui bénéficiant du plus grand soutien populaire sur place. Pour l'instant, la victoire est revenue à l'opposition le week-end dernier. Une opposition qui est principalement pro-européenne. Elle est majoritaire dans le pays, mais disparate. Elle est composée de nationalistes de Svoboda, de certains courants apolitiques et d'anciens hommes ou femmes politiques pro-européens. Ces derniers manquent de popularité et souffrent d'une image d'incompétence. Rien ne présage donc d'une suprématie pro-européenne. Dans tous les cas, l'Ukraine orientale restera pro-russe et anti-européenne, tandis que l'Ouest, depuis 2004, affirme son appartenance à l'Europe. Il est désormais acté que l'Occident et la Russie se sentent toute liberté pour tirer chacun sur leur côté d'Ukraine. Le résultat risque de ne pas tarder. L'Ukraine, déjà clivée, va se retrouver écartelée. Le pouvoir fragile qui va naître à Kiev dans les mois à venir devra reconnaître cette division tout en négociant avec les puissances extérieures. Seule solution, le gouvernement devra marcher vers la constitution d'un État fédéral.
Merci Quentin, tu ne laisses donc pas beaucoup de choix aux futurs dirigeants ukrainiens. Et voilà l'heure de retrouver Pierre-Antoine dans le sous-marin. Samedi dernier, entre 20 000 et 50 000 personnes ont manifesté à Nantes contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En marge de la manifestation, un millier de casseurs se sont attaqués au commerce et aux infrastructures de la ville. Europe Écologie Les Verts a soutenu la manifestation tout en regrettant les débordements, de quoi faire grincer des dents à Matignon.
Entre le Premier ministre et Cécile Duflot, le torchon brûle. Lors d'un entretien au Monde daté de dimanche, la ministre écologiste du logement annonce que si elle n'avait pas été ministre, justement, elle aurait marché avec les manifestants anti-Notre-Dame-des-Landes. Je suis de cœur avec eux et ils le savent, ma contestation de ce projet est ancienne, notre participation à la majorité n'y change rien, a-t-elle ajouté. Pas sûr que tout le monde chez les socialistes l'entende de cette oreille. Les violences qui ont émaillé la manifestation ont certes été condamnées par Emmanuel Kos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, mais pas assez pour Jean-Marc Ayrault. Ces violences sont inacceptables dans un état de droit. Tous ceux qui exercent des responsabilités publiques doivent condamner les squatteurs de la ZAD, organisateurs délibérés de ces violences. Le Premier ministre demande également aux écologistes de clarifier leur position et de sortir de l'ambiguïté. Emmanuel Kos affirme de son côté avoir rassuré Jean-Marc Ayrault. On a toujours dénoncé les actes de violence, donc les choses sont très simples, il n'y a aucune ambiguïté de la part d'Europe Écologie Les Verts. Point de vue que rejoint Pascal Canfin, ministre écologiste du Développement, il était dimanche sur France Inter.
Nous avons bien évidemment condamné fermement les violences qui ont entaché cette manifestation. Et donc, il n'y a aucun problème. Nous sommes parfaitement sereins et nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde que Jean-Marc Ayrault, qui nous demandait de le faire. Nous l'avons fait avant même qu'il nous le demande de le faire. Et puis, maintenant, le problème est derrière nous.
Le problème est derrière nous.
Pas sûr, les politiques de tous bords en ont profité pour s'exprimer. Rien de mieux qu'un conflit au sein du gouvernement pour refaire une opposition un peu fatiguée. Mettre le doigt là où ça fait mal, certains en sont devenus maîtres, comme Jean-Luc Mélenchon. Le président du Front de Gauche défilait samedi aux côtés des zadistes, des écologistes et des agriculteurs. Pour ma part, j'ai participé à une manifestation tranquille, je n'ai rien vu de ces violences. Le cofondateur du parti de gauche n'a pas de mots assez dur contre le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas un événement sans racines, dit-il. Il s'est installé un climat dont Manuel Valls est le responsable. Lorsqu'il a fallu évacuer la zone du projet d'aéroport, les ordres qu'il a donnés étaient d'une dureté incroyable. Lundi matin, sur France Info, il s'attaquait cette fois-ci au Premier ministre.
Cet aéroport est absurde, il y en a déjà un, on peut l'étendre sans aucune difficulté, c'est de l'obstination de la part de Jean-Marc Ayrault, tout le monde le sait, et l'aéroport cessera le jour où Jean-Marc Ayrault ne sera plus Premier ministre, c'est-à-dire bientôt. Donc là, nous sommes seulement en train de perdre notre temps.
Le changement de Premier ministre que certains prévoient juste après les municipales, dans un mois, suffira-t-il à enterrer le projet? Jean-Marc Ayrault pourrait ne pas être le premier à partir du gouvernement, c'est du moins ce que souhaitent certains ténors de l'opposition de droite. L'UMP demande en masse le départ des ministres verts du gouvernement. Benoît Apparu, député de la Marne, dénonce l'absence d'unité au sein du gouvernement. Même analyse pour Brice Hortefeux. Je serai Premier ministre, je déciderai de laisser du temps à la ministre qui conteste mon projet et donc je la libérerai de ses responsabilités gouvernementales. Dommage, Brice Hortefeux n'est pas encore Premier ministre. Manquait plus que le patron de l'UMP. C'est chose faite avec la déclaration de Jean-François Copé lundi matin. Le secrétaire général de l'UMP estime que les Verts ne sont pas dans l'ambiguïté. C'était sur France Inter.
Lorsqu'il invite les Verts à sortir de l'ambiguïté, je pense que c'est l'inverse qui doit être fait. C'est à lui de sortir de l'ambiguïté. Donc pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les Verts sortent du gouvernement une bonne fois pour toutes, ce qui d'ailleurs rendrait service à ce gouvernement, parce qu'il permettrait de clarifier un certain nombre de choses. C'est Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, c'est la transition énergétique demain.
Bon, qu'est-ce qui va se passer finalement, Pierre-Antoine ?
Normalement, rien. Du moins, pas avant les municipales. Hein. Jean-Marc Ayrault a décidé d'apaiser les tensions avec la majorité PS et ses alliés au gouvernement. Le Premier ministre a souhaité expliquer que le week-end s'était écoulé et qu'il y avait besoin de tout le monde, une bouffée d'air frais pour les écolos, pour qui il faut aller de l'avant, selon les mots de Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Indifférent, si projet municipal ne peut pas être une bonne chose pour aucun des deux partis, les Verts n'existeraient pas réellement sur leur ami du PS et le PS, là où les écolos ont fait liste à part, a besoin du report de voix. Une entente est donc nécessaire, et ce même s'il faut pour ça faire mentir Jean-Pierre Chevènement, qui disait: un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Avant de vous quitter, voici l'agenda de votre soirée angevine présentée ce soir par Dimitri, notre stagiaire. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Ce soir, au bar du Colisée, du poker de retour au programme. Boulevard Foch à 20h. Mais également à cette même heure au Théâtre en Bois, soirée court-métrage et débat avec Je suis gothique et sage-femme, afin de discuter des préjugés et des discriminations. Au cinéma des 400 coups, le film Guerrière qui raconte l'histoire d'une femme de 20 ans faisant partie d'un gang néo-nazi. À l'arrivée des trois nouveaux venus dans le gang, le fanatisme de la jeune femme est mis à mal. Film de David Wayne vous est proposé, présenté par Christophe Dumas à 20h45. À 20h30, au T-Rock, Musique Caméléon vous propose un Bœuf Blues.
Et demain soir, qu'est-ce qu'on fait, Dimitri ?
À 20h, à la bibliothèque Nelson Mandela, une conférence nommée « Les jeux vidéo, ça rend pas idiot » de Yann Leroux afin d'étudier les relations en ligne. À 20h30, à l'espace culturel de l'université, l'association Les Zygomatiques, en partenariat avec l'université, organise une soirée théâtre d'improvisation pour célébrer son 10e anniversaire. À 20h45, les musiciens Touareg de Tinari Wayne et DJ Nadia exécuteront un concert au Shabada. À 21h45, au Terro Coco, une scène acoustique est ouverte. Libre à vous de proposer vos compositions ou reprises.
Merci Dimitri, et notez aussi que demain soir, le tremplin Temporif commence pour deux soirs à la salle Claude Chabrol. Tout de suite, à 20h sur Radio Campus Angers, cette fois-ci, vous retrouvez Perfusion, l'émission santé de la radio, et à 21h, The Johnny Clash Show, le seul et l'unique. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. Martin de l'équipe Ciné Quanon, l'émission cinéma du vendredi soir, nous parle du nouveau Wes Anderson qui sort demain, The Grand Budapest Hotel. Merci à vous vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve jeudi à 19h. Très bonne soirée sur Campus. Allez, bisous.
Je vais vous parler de Grand Budapest Hotel. On l'attend tous depuis des mois et des mois et des mois. Il y avait cette bande-annonce qui était là depuis au moins 4-5 mois. Et maintenant, c'est officiel la semaine prochaine. Il sort enfin. Il a ouvert le festival de Berlin, la Berlinale.
Ah oui?
Oui, pour la 64e édition. Il a reçu d'ailleurs le Grand Prix du jury. Ça m'étonne pas de Wes Anderson.
C'est alléchant, ça.
Voilà. Comme d'habitude, gros casting
Que d'habitude encore.
Ah oui, toujours.
C'est
exponentiel en fait. À chaque fois, ils rajoutent des guests.
Ouais, c'est ça.
Donc, on retrouvera notamment Ralph Fiennes, Mathieu Amalric, F. Murray Abraham, William Dafoe, Adrien Brody. J'ai peur d'en oublier.
Oh, oui.
Bill Murray. Ouais, Tilda Swinton qui joue dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Bref, autant dire que le casting est toujours incroyable. Quant à l'histoire, c'est celle de Gustav H. qui est donc un célèbre hôtelier européen. Ça se passe donc dans l'entre-deux-guerres et ça, de ce que j'en ai vu du trailer, ça parle donc d'héritage, donc d'une vieille femme qui est interprétée par Tilda Swinton et d'un tableau apparemment qui est missing, j'arrive pas à trouver mon mot.
Manquant.
Voilà, merci. Excusez-moi, je suis bilingue. Bref, moi je pense, quand on voit la photographie est toujours magnifique. On retrouve un peu l'univers Moonrise Kingdom un petit côté collage.
Je peux pas t'aider, je l'ai pas vu.
Ah,
une sorte d'épic minimaliste, je trouve.
Ouais, c'est ça. C'est... Puis il y a un côté un peu collage, t'as quoi.
Oui, maison de poupée.
Ouais, voilà, ouais, exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le décor est réel. C'est un vrai hôtel qui s'appelait le Görlitzer Ferienhaus, qui était donc à la frontière de l'Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque.
Sympa.
Voilà, donc ça se passe dans des décors réels, somptueux, comme d'habitude. Le travail de décor est magnifique, tout. Donc moi, bien sûr, je suis très enthousiaste pour cette sortie, plus qu'enthousiaste même. Je pense que d'ailleurs ça va être le film de la semaine prochaine. Dicta. Voilà. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.